Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Une cargaison d'engrais russe à destination du Zimbabwe a été déchargée dans un port mozambicain. Le président centrafricain en route pour la Russie et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football. Emmanuel Macron a nommé un nouvel envoyé spécial pour l'Afrique. Un militant burkinabé a commenté cette nomination. Le Premier ministre du Niger a reçu récemment une délégation des BRICS. Le vice-président en charge des projets stratégiques des BRICS a dressé le bilan et les enjeux de cette visite. L'opposition n'entend pas baisser les bras suite au report des élections présidentielles au Sénégal. Un panafricaniste burkinabé nous livrera ses analyses de la situation et évaluera les possibilités de sortie de cette crise politique. Les pays membres de l'AES ont réitéré leur volonté de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. La représentante d'un parti politique ivoirien reviendra sur cette annonce. Le groupe russe Uralchem a annoncé dans un communiqué de presse qu'une cargaison humanitaire de 23 000 tonnes d'engrais à destination du Zimbabwe a été déchargée dans le port de Beira au Mozambique. Selon le communiqué, cette livraison est la dernière des 5 cargaisons promises à l'Afrique en vue de soutenir une agriculture productive et durable ainsi que d'atténuer les effets d'une crise alimentaire mondiale sans précédent. Pour rappel, les engrais russes ont été bloqués dans les ports européens suite aux sanctions imposées unilatéralement par l'Occident contre Moscou. En conséquence, les pays déjà confrontés à des pénuries de produits agricoles ont souffert. Depuis 2022, le groupe Uralchem a fourni gratuitement plus de 134 000 tonnes d'engrais au continent africain. Le transport de plus de 110 000 tonnes de ces fertilisants a été facilité par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La PAM a affrété des navires pour transporter les lots depuis les ports et entrepôts européens où elles étaient bloquées, jusqu'au Malawi, au Kenya, au Nigeria et désormais au Zimbabwe. Uralchem a quant à elle pris en charge le fret maritime et d'autres frais de livraison en accord avec les pays bénéficiaires. Faustin Archange Touadéra est en route pour Moscou. C'est l'ambassade de Russie en RCA qui en a fait l'annonce sur sa chaîne Telegram. L'ambassadeur russe en poste dans ce pays, Alexandre Bikantov, a accompagné le président centrafricain à l'aéroport international de Bangui. Selon la mission diplomatique, le leader de la RCA se rend en Russie pour participer à un forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme. Cet événement se tiendra du 15 au 17 février dans la capitale russe. Des représentants de 60 pays sont attendus à cette occasion. Pour rappel, le Forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme a été créé à l'initiative du parti politique Russie Unie. L'idée a été soutenue par le président russe Vladimir Poutine. Il vise à développer une coopération multilatérale, mutuellement bénéfique avec des forces politiques responsables sur tous les continents. Enfin, ce forum se tiendra tous les 2 ans. Clap de fin pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Côte d'Ivoire qui a remporté le trophée à la maison en battant en finale le Nigeria sur le score de 2-1. Les éléphants ont gagné cette compétition pour la 3e fois. Ils avaient déjà soulevé la coupe en 1992 et 2015. Lors de cette rencontre, tout avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens. Contre le cours du jeu, Trost Ekong a ouvert la marque pour le Nigeria à la 38e minute. Il a fallu attendre la 63e minute pour voir Franck Kessier égaliser. C'est à 9 minutes de la fin du temps réglementaire que Sébastien Haller a offert la victoire aux éléphants. Cette finale de la CAN a été la plus regardée de l'histoire de la compétition. Elle a été retransmise dans 173 territoires à travers le monde. Selon la Confédération africaine de football, les 54 pays du continent ont diffusé le match sur leurs écrans. Il était également possible de regarder le match en Europe, en Asie, dans les Amériques, dans les Caraïbes, ainsi que dans le Pacifique Sud. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de brancher votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le président français Emmanuel Macron a nommé un nouvel envoyé personnel pour l'Afrique. Il s'agit de Jean-Marie Bockel, ex-ministre de la coopération sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il aura pour objectif d'expliquer aux pays africains qui accueillent des bases militaires les raisons et les modalités de la future réorganisation de l'armée française en Afrique. Monsieur Bockel devra rendre compte de ses travaux aux locataires de l'Élysée d'ici à l'été prochain. Les pays qui sont concernés par ce changement de stratégie sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Tchad. Le nombre de soldats français y sera réduit. Il faut noter que Djibouti fait figure d'exception puisqu'elle n'est pas concernée par ce redressement. Pour rappel, c'est suite à des humiliantes déconvenues au Sahel que la France a décidé de réorganiser sa présence militaire. L'Élysée a acté le format de cette restructuration lors d'un conseil de défense en décembre 2023. Au micro de Spoutnik Afrique, Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a commenté cette nomination. Emmanuel Macron a nommé l'ex-ministre Jean-Marie Bockel son envoyé personnel pour l'Afrique. Après le départ de militaires français de pays sahéliens et la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, pouvez-vous dresser le contexte dans lequel cette nomination a été annoncée ?
Effectivement, nous regardons de près la situation, l'évolution de la situation des relations entre la France et l'Afrique, plus précisément les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali. Oui, effectivement, comme vous l'avez annoncé, la désignation du nouveau ministre français ne nous a pas surpris. Nous ne sommes pas surpris dans la mesure où, comme vous le savez, le contexte est tel que la France, nous le savons, la France officielle continue à chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa politique paternaliste en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous le savons, malgré que la France ait été chassée, les soldats français ont été chassés du Burkina, du Mali et du Niger. Nous savons qu'ils vont vouloir chercher d'autres moyens qui vont leur permettre de revenir par d'autres canaux. Et donc, si Emmanuel Macron, le président français, désigne un ministre à qui il va donner la mission de voir comment il va essayer peut-être de recoller le morceau par rapport aux relations qui existaient avant et qui sont définitivement rompues entre la France et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes plus ou moins, nous pouvons dire qu'on attend de voir quelle va être... Nous pouvons dire, on attend de voir quelle va être la stratégie déployée par ce ministre pour essayer d'accomplir sa mission, la mission à lui assignée par Emmanuel Macron. Lorsqu'on sait que au niveau de l'engagement des peuples de ces pays, la rupture avec la France est consommée et que effectivement ces pays-là n'entendent pas, en tout cas pas dans un bref délai, reprendre les relations avec Paris.
Parmi les pays qui abritent encore des militaires français figure le Sénégal. Ce dernier traverse une montée des tensions après l'annonce du report de la présidentielle. Y voyez-vous des risques pour la stabilité du pays ?
Oui, effectivement, la situation qui prévaut actuellement au niveau du Sénégal est une situation très préoccupante. On sait que c'est une situation qui intervient dans un contexte, si vous voulez, un contexte de réveil, d'éveil citoyen au niveau des pays membres du Sahel, au niveau des pays membres de la CEDEAO, dont le Sénégal est un. Et donc, nous suivons de très près cette situation au niveau du Sénégal. dû au report de la présidentielle par le président Macky Sall. Effectivement, c'est une situation extrêmement préoccupante, ainsi que tout le monde sait qu'elle ne présage pas quelque chose de bon. Les opposants de Macky Sall, l'opposition politique sénégalaise, a très vite réagi par rapport à ces reports de la présidentielle. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles les travaux de l'Assemblée se sont effectués par rapport à l'adoption de ces reports-là. Pour donner l'approbation du Parlement, ça n'a pas été fait comme on l'aurait souhaité. On a vu que les députés de l'opposition étaient chassés de l'Assemblée en catimini. Et pendant ce temps, tout le monde voit que la rue sénégalaise est en train de bouger. On constate une montée des tensions vraiment extrêmement préoccupantes. Donc, toute chose qui nous amène à dire que c'est très compliqué et nous souhaiterons à ce que le président sortant Macky Sall puisse vraiment tirer les conséquences ainsi que les leçons apprises d'autres pays qui ont voulu, ou les chefs d'État sortants ont voulu faire la même chose. Parce que d'abord, du point de vue des droits, Macky Sall est arrivé à terme de son deuxième et dernier mandat. Il doit tout simplement organiser les élections et s'en aller, laisser au nouveau président la charge de conduire les affaires publiques au Sénégal. À lieu et place de son départ, il organise à la dernière minute, disons, là, il annonce la veille même de l'ouverture de la campagne, il annonce les reports du scrutin. C'est du jamais vu, ce n'est pas, c'est politiquement inadmissible et juridiquement. Et une situation très difficile sur le plan du droit, parce que là, on sait bien que le Sénégal est un pays membre de la CEDEAO et on sait que le protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie de la CEDEAO prévoit que il est interdit à tout président d'un pays membre de la CEDEAO sortant de modifier les règles du jeu démocratique, les règles du jeu électoral 6 mois avant le scrutin. Et donc, au nom de cette disposition-là, de la loi qui oblige, à laquelle Macky Sall a l'obligation de se plier, nous pensons que Macky Sall n'a pas le droit, il devait respecter les textes qui lient le Sénégal à la CEDEAO et qui lient effectivement Macky Sall au peuple et à ses fonctions de chef de l'État.
La nomination de M. Bockel intervient alors que Paris prévoit de réduire sa présence militaire sur le continent. L'envoyé de M. Macron a notamment pour mission d'expliquer aux pays accueillant des bases françaises, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, les raisons et les modalités d'adaptation prochaine du dispositif français. Comment l'interprétez-vous? Et la présence française va-t-elle changer de format selon vous?
Bon, à ce niveau, on peut dire que peut-être qu'il peut toutefois réussir. Le nouveau ministre là désigné par Emmanuel Macron pouvait réussir parce qu'il s'agit pour lui, il s'agissait pour lui d'aller rencontrer les chefs d'État des pays que vous venez de citer, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et peut-être un peu le Tchad, pour leur expliquer les conditions, le format du redéploiement des soldats français sur leur territoire. Peut-être il pouvait toutefois accomplir sa mission, étant donné qu'il est en train d'aller dans des pays où les chefs d'État, les présidents qui sont en fonction aujourd'hui dans ces pays-là sont des chefs d'État qui sont soumis à la politique, à la France-Afrique, à la politique française en Afrique. C'est effectivement ces chefs d'État qui continuent à aider la France dans sa politique néocoloniale en Afrique. Et donc, on peut aller dans ces pays vers ces chefs d'État-là pour expliquer comment s'effectuera le déploiement des soldats français chassés du Niger, du Sénégal et du Mali va s'effectuer dans leur pays. Je ne pense pas que peut-être ils peuvent rencontrer des difficultés, puisque la seule difficulté qu'ils pourraient rencontrer, c'est lorsqu'il va être demandé l'avis ou l'approbation des parlements de ces pays, ou lorsqu'il va être soumis à référendum cette question pour consulter les peuples de ces pays. C'est en ce moment-là qu'ils pourraient rencontrer des difficultés, parce que tout le monde sait que il ne fait l'ombre d'aucun doute que les peuples, je parle bien des populations de ces pays, ne veulent plus de la présence des soldats français sur leur territoire. Ils sont dans la même logique et avec le même état d'esprit que les pays membres de l'AES qui ont chassé les soldats français de leur terroir. De leur territoire. Et donc, s'il va être demandé l'avis des citoyens de ces pays, ils vont être catégoriquement contre le redéploiement des soldats français sur leur territoire. Mais comme dans la plupart des cas, la France, comme c'est qu'elle a l'habitude de faire, lorsqu'elle décide d'aller dans un pays, elle passe outre l'avis des populations. L'approbation des parlements n'a jamais été demandée. Et la France officielle traite directement avec les chefs d'État, elle les donne des dépôts de vin, elle les corrompt au moyen de corruption et elle les déploie ses soldats sur le territoire. Et donc, c'est toujours la politique interventionniste française qui ne respecte pas souvent certaines règles, c'est elle qui va continuer là-bas. Et c'est en ce sens, je dirais que peut-être le ministre Jean pouvait toutefois accomplir sa mission là-bas. Il pouvait avoir du succès, mais ce ne serait que pour un temps, parce que là-bas aussi, les peuples vont finir par prendre la responsabilité pour chasser les soldats français au moment venu. Si même ils n'auront pas à chasser les chefs d'État laquais de ces pays qui sont totalement à la solde de la France.
Selon vous, qu'est-ce que Paris a encore à offrir à l'Afrique aujourd'hui ?
Oui, effectivement, c'est la question, la plus grande question qu'on doit se poser. Je vous remercie pour cette question. Qu'est-ce que la France ou Paris a à offrir à l'Afrique dans ce contexte? C'est une question très pertinente. On le voit visiblement que la France, en termes d'offres, qu'elles soient offres politiques ou offres économiques, dans le cadre des relations bilatérales avec les pays de l'Afrique, on ne voit pas assez que la France pouvait apporter à ces pays. Hier, pendant la colonisation, ils disent qu'ils vont coloniser l'Afrique pour apporter la civilisation. Un peu, c'est la même chose que les autres pays de l'Europe ont dit. Alors, ils ont, au nom de cette civilisation, ils se sont livrés à poser des actes et des pratiques les plus malsaines de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est la même politique néocoloniale que la France continue d'exercer dans les pays de l'Afrique. Très malheureusement, la France ne s'est pas adaptée. Elle n'a pas compris que l'évolution du contexte étant irréversible, elle devait adapter sa politique franco-africaine à l'évolution du contexte pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à l'Afrique afin que ses relations puissent continuer avec ses pays. Malheureusement, tous les chefs d'État français qui se sont succédés n'ont pas fait ça. Et Emmanuel Macron non plus n'a pas quelque chose qu'il peut proposer aux peuples africains aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui, les peuples africains sont des peuples non seulement éveillés, qui sont engagés, qui sont plus que jamais déterminés à défendre la souveraineté de leur pays, à défendre l'indépendance réelle de leur pays, et c'est dans ce contexte que la France, chassée de l'AES, voulait se redéployer dans les autres pays. On se demande qu'est-ce qu'elle va effectivement apporter. Cette question est très importante et moi, personnellement, je n'y vois pas ce que la France pouvait apporter du nouveau qui va permettre que les peuples de ces pays-là puissent accepter l'offre de la France. On le voit quand vous prenez sur le plan de la diplomatie, il n'y a rien, il n'y a pas une expertise ou quelque chose d'important que la France pouvait apporter. Quand on voit sur le plan de l'économie, on ne voit pas. Les multinationales françaises, lorsqu'elles sont dans les pays africains, même dans le cadre des contrats qu'elles arrivent à signer, c'est des contrats toujours déséquilibrés, c'est des contrats léoniens, et ce ne sont pas des contrats gagnants-gagnants, comme on l'a dit, qui permettront à ces pays de gagner, de bénéficier des offres ou de certaines prestations venant de ces multinationales. Et c'est une des raisons qui a accentué le sentiment anti-politique française en Afrique, dans ces pays, dans nos pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, on ne voit pas, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan même de la défense, la France a toujours fait montre des mauvaises pratiques de son attitude paternaliste, et c'est la même chose qu'elle va continuer à offrir. Et nous sommes conscients en tant qu'Africains et en tant qu'analystes politiques que la France a plus à gagner en Afrique que à donner. La France va plus profiter toujours et toujours des richesses des pays de l'Afrique que de donner quoi que ce soit aux peuples africains, parce qu'on ne voit pas ce que la France pouvait apporter aujourd'hui. On se demande c'est quoi la technologie. On ne voit pas quelle technologie la France pourrait apporter. Et l'ingénierie, on ne voit pas. Et la politique, elle est mauvaise, la politique française. Et sur le plan économique, la France, sans nos pays, et la France va carrément perdre sa position des puissances économiques. Ça, nous le savons. Et donc, c'est ce qui nous amène à dire qu'il n'y a absolument rien, plus rien à attendre de bien de la France qui va être donnée aux Africains.
Parmi les pays concernés, on trouve le Tchad, dont le président s'est récemment rendu en visite en Russie. Quelle est votre lecture de cette visite?
Oui, effectivement, quand nous avons vu le président Kaka Déby en Russie, à côté du président de la Fédération de la Russie, Monsieur Vladimir Poutine, nous étions contents. Nous étions contents parce que, en fait, nous étions là en train de mettre d'inquiétudes légitimes quant à ce qui concerne l'avenir des relations entre nos pays membres de l'AES, notamment le Niger et le Tchad, lorsqu'on sait que quand le peuple nigérien a chassé les soldats français, une partie de ces soldats étaient repositionnés au niveau du Tchad et pas non loin de la frontière avec le Niger. Et nous savons les manœuvres, les mauvaises pratiques auxquels les soldats français sont habitués. Ils peuvent toutefois, à partir de là-bas, provoquer des situations inconfortables pour notre pays. Et donc, on était inquiets. On était en train de se demander quel va être l'avenir de nos relations avec le Tchad, quand tout d'un coup, nous avons vu le président Kaka Déby au niveau de la Russie. Et on s'est dit que là, ça présage un meilleur lendemain. Parce que nous savons que nos relations avec la Russie sont des relations qui sont au bon fixe. C'est des très bonnes relations que nous entretenons et nous en sommes conscients et convaincus que les conseils que le président Vladimir Poutine va donner au président Kaka Déby seront des bons conseils qui vont permettre de consolider nos relations avec les relations entre les pays membres de l'AES et le Tchad, voire même probablement faire en sorte que le Tchad puisse rejoindre les pays membres de l'AES pour essayer de former une force au niveau de ces pays du Sahel avec le soutien actif de la Russie. Nous étions effectivement contents et nous avons dit que finalement le moment est venu pour que définitivement les pays du Sahel puissent s'affranchir du joug néocolonial français. Nous attendons de voir effectivement et quels vont être les prochains jours par rapport comment seront les prochains jours par rapport à la relation entre le Tchad et la France vis-à-vis en ce qui concerne l'installation de ces soldats français au niveau du Tchad. Nous osons espérer que dans les jours à venir, comme déjà le peuple tchadien est mobilisé pour demander le départ des soldats français du Tchad, nous osons espérer que les autorités tchadiennes vont écouter le peuple tchadien et faire droit à la demande du peuple tchadien qui consistera à faire partir les soldats français du territoire tchadien et probablement aider à ce que le Sahel soit totalement débarrassé des soldats terroristes français ou des soldats complices des terroristes français.
C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable pour Spoutnik Afrique. Il a commenté la nomination par Emmanuel Macron d'un nouvel envoyé personnel pour l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Le premier ministre nigérien de la transition, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a accueilli récemment une délégation des BRICS. Cela est intervenu quelques jours après une tournée internationale qui l'a conduit notamment en Russie et en Iran. Pour rappel, les BRICS sont composés de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Depuis le 1er janvier, le groupe présidé par la Russie a inclus en son sein de nouveaux membres. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie et de l'Égypte. Au micro de Spoutnik Afrique, le Dr Aoua Don Mello, vice-président en charge des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS, ancien ministre ivoirien, est revenu sur cette visite à Niamey d'une délégation de l'ex-groupe des 5, devenu groupe des 10.
Le premier ministre du Niger a reçu une importante délégation du groupe des BRICS. Donc, quels étaient les enjeux de cette visite et comment vous estimez ces résultats?
Ben, d'abord, il faut situer cette visite dans un contexte très particulier où l'organisation régionale qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, eh bien, qui à sa naissance était vraiment un instrument de progrès dans le cadre de la construction du panafricanisme en Afrique. Il y a eu des organisations sous-régionales et des organisations continentales. Et parmi les organisations régionales, il y avait la communauté de développement de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Bon, cet instrument-là, progressivement, est devenu un bâton. D'abord, ça marchait sur des béquilles occidentales, puisque une bonne partie du financement de ces structures-là vient de l'Occident. Donc, ça marchait sur des béquilles occidentales. Et maintenant, c'est devenu un bâton contre tous les États qui veulent se libérer. Et donc, cette situation rend inconfortable la présence des États souverainistes à l'intérieur de cette institution-là. Et donc, ils ont tout simplement décidé de sortir de ce carcan-là pour créer une nouvelle page du néo-panafricanisme. Un nouveau panafricanisme qu'on peut aisément appeler le néo-panafricanisme. Et donc, ce néo-panafricanisme-là va avoir pour tâche essentielle de proposer un nouveau schéma d'intégration des États africains. Mais compte tenu de leur passé avec l'Occident, il est bien évident que c'est en s'ouvrant vers de nouveaux pôles émergents qu'ils pourraient avoir une solidarité internationale autour des actions qu'ils mènent. Et les BRICS sont là pour ouvrir cette opportunité-là à un monde multipolaire qui est en construction. Donc, il n'y a pas que les BRICS, il y a la Turquie, il y a d'autres pays qui frappent à la porte. Mais c'est l'expression d'un monde multipolaire au chevet de l'AES qui signe la page du néo-panafricanisme.
Et cette visite, comment vous estimez ces résultats de visite au Niger?
D'abord, il faut comprendre l'environnement. Comprendre aussi les besoins fondamentaux des gouvernants et ensuite les traduire en projets stratégiques qui vont nous permettre d'en faire la promotion auprès des pays membres des BRICS. Donc l'alliance des BRICS, qui est différente des BRICS, il faut bien le souligner, l'alliance des BRICS, qui est une organisation non commerciale russe, qui a à sa tête une diplomate russe, eh bien, elle est là pour assurer le lien entre les BRICS et les pays non membres des BRICS. Mmh. Et donc, ce lien passe par la promotion des rapports de coopération entre les pays non BRICS et les pays non membres des BRICS. Et évidemment, en y insistant, beaucoup de pays rejoindront, nous l'espérons, les rangs de BRICS.
Et pouvez-vous nous en dire plus sur quelques projets sur auxquels l'Alliance pourrait participer au Niger?
Et donc, après discussion, évidemment, l'heure n'est pas à un accord stratégique. Ça, c'est vraiment pour recueillir les points de vue. Mais ces points de vue-là tournent autour essentiellement du désenclavement du pays, dans la mesure où ils ont été sortis de la CEDEAO, et donc les anciennes voies sur mer ne sont plus accessibles. Il faut donc ouvrir de nouvelles opportunités pour avoir pour la liberté des échanges entre les différents pays et entre ces pays-là et puis l'extérieur. Et donc l'ensemble des infrastructures et des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif-là, c'est ce qui a été mis sur la table. Mmh. Et nous, tant que l'Alliance des BRICS et moi personnellement m'occupant des projets stratégiques, eh bien je pense que c'est des projets sur lesquels nous allons faire le lobbying nécessaire pour que ça soit inscrit aux agendas de l'Alliance et aussi aux agendas des opérateurs des pays membres des BRICS.
D'accord, je vois. Et avec quel pays de l'Afrique l'Alliance travaille-t-elle en ce moment?
Actuellement, depuis à peu près, je dirais 2 ans, on travaille avec la République centrafricaine et depuis 1 an, on travaille avec le Burkina. Mmh. On a commencé nos activités il y a 2 ans avec ces deux pays-là. Et donc, aujourd'hui, on poursuit avec la Guinée équatoriale, mais aussi avec le Niger. Et donc, nous sommes dans une dynamique de coopération et d'élargissement des amis des BRICS.
D'accord, d'accord, je vois. Et où en sont les projets lancés au Burkina? Par exemple, une représentation de l'Alliance des BRICS a-t-elle déjà ouvert? Ou elle est en quelle étape?
Oui, on a un représentant de l'Alliance des BRICS qui a été nommé par la présidente, la diplomate Larissa Zelensova. Mm-hmm. Et donc, il représente les BRICS et c'est lui qui agit au nom des BRICS au titre du Burkina. Et donc, il est alors en phase d'identification de projets. Il est aussi en phase d'identification des partenaires BRICS pour venir, qui sont intéressés par ces projets. Et la dernière phase sur laquelle il travaille, c'est vraiment les études de faisabilité des premiers projets identifiés en vue de leur contractualisation et de la mobilisation du financement pour leur réalisation. En tout état de cause, un projet stratégique, il y a plusieurs phases. Hein. Identification de projet, étude de faisabilité, mobilisation du financement et réalisation du terrain, sur le terrain. Donc voilà un peu les différentes phases. C'est cela. Il faut être patient, mais nous avons mis en place tout un ensemble de procédures qui permettent de réduire les écarts entre les différentes phases du projet.
Mmh. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Et j'ai vu aussi qu'en janvier, en fait, une délégation était à la RCA où c'était aussi discuté les projets en ce qui concerne les télécommunications, la 5G, avec comment avec les entreprises russes. Est-ce que vous pouvez en parler plus un peu sur ces projets dans ce domaine? Où en quelle étape sont ces projets?
Oui, bon, d'abord pour le projet aéroport, l'étude de faisabilité a été présentée et ça a été satisfaisant. Donc, on est passé à la deuxième phase qui est la contractualisation et qui va permettre de mobiliser le financement et de démarrer les travaux. Donc, ce projet, il est le plus avancé en termes d'études de faisabilité et d'identification des partenaires pour financer le projet. C'est l'opérateur même qui a signé, qui a en même temps son bailleur de fonds. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher du financement. Et le projet peut donc démarrer d'ici 3 mois, le temps de régler les problèmes fonciers et la partie administrative pour que les travaux démarrent en toute sécurité. Mmh. Bien, maintenant, pour la 5G, c'est à la phase d'études préliminaires, parce que la mission qui est partie a cherché à comprendre l'environnement, l'existant, et à capter toutes les informations nécessaires sur ce secteur-là pour pouvoir proposer quelque chose qui s'insère dans le système actuel de gestion du secteur de télécommunications.
Et j'ai bien compris que c'était avec les entreprises russes que c'est en train de discuter aussi, ce projet de 5G, c'est ça?
Oui, le projet de 5G, c'est avec l'entreprise russe. Le projet d'aéroport, c'est avec les Émiratis. Et d'autres projets encore sont pour.
D'accord, je vois. Et la Russie, vous savez, préside cette année le groupe élargi des BRICS. Et il a été annoncé que les échanges en monnaie nationale seraient au centre des discussions. Donc, à votre avis, quelle est l'importance de ce sujet pour les pays africains avec lesquels vous travaillez? Les échanges en monnaie
nationale. Le cas du Niger. Le cas de la banque émettrice des billets de banque et des pièces de banque du Niger, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette banque-là a décidé de mettre au restreint, c'est-à-dire d'interdire même de le fournir des billets de banque et des pièces. Conclusion, eh bien, toute l'économie, toute la masse monétaire est au restreint. Et donc, ça n'évite pas les échanges entre les différents acteurs. Et il est difficile aujourd'hui d'aller à la banque pour pouvoir retirer suffisamment d'argent pour faire face. Donc, on est tombé dans une économie informelle. Par conséquent, il est bien évident que lorsque vous êtes acculé de cette façon, eh bien, vous avez tendance à vouloir trouver des réponses alternatives. C'est ce qui a entraîné la création de l'AES, mais il y a aussi le risque que ce mouvement-là continue. Et puisque l'agression d'un fait partie de l'agression de tout le monde, le fait que le Niger soit privé de monnaie, eh bien, c'est une agression contre les trois pays. Et donc, la nouvelle façon de gérer les relations internationales sur le plan monétaire, étant donné que ces pays-là sont coupés, je dirais, de leur banque centrale, ou seront coupés de leur banque centrale, ça ne sera pas pour longtemps, eh bien, ils doivent se doter des moyens qui puissent leur permettre de commercer en monnaie locale pour se passer du dollar parce que toutes ces institutions financières-là sont devenues des bâtons entre les mains de l'Occident. Que ce soit les réserves en devises, c'est devenu des bâtons entre les mains de l'Occident, puisque les réserves sont faites soit en dollars et en euros. Et donc, c'est leurs conditions qui sont imposées pour pouvoir faire du commerce international. Ce contexte-là est antinomique avec un monde multipolaire. Et donc, si nous voulons un monde multipolaire, eh bien, il va falloir utiliser le mécanisme de paiement en monnaie locale pour pouvoir se passer de ceux qui veulent utiliser la monnaie comme une arme.
D'accord, je vois. Et vous avez évoqué l'Alliance des États du Sahel, et notamment en décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé que l'AES évoluerait vers une alliance économique. Et donc, alors que les pays de l'AES viennent de quitter la CEDEAO, comment voyez-vous la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe, au sein de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Comment vous voyez cette possibilité?
Je pense que ce n'est pas supportable que des pays comme le Niger ne soient pas adossés à une banque centrale, voilà, émettrice. Et cela ne va pas durer longtemps, dans la mesure où le Niger ne va pas s'étrangler monétairement et donc étrangler son économie. Dans tous les cas, le Niger doit apporter une réponse. Or, comme il y a une solidarité qui existe entre les trois pays, la réponse du Niger sera une réponse partagée. Ce sera, je pense, que si rien n'est fait pour rétablir les relations normales au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour que ces pays-là puissent retrouver, disons, leur place au sein de la CEDEAO, enfin au sein de l'UEMOA, eh bien, ces pays-là n'auront aucune raison de ne pas aller vers leur propre institution monétaire.
D'accord, je vois.
Puisque les sanctions les mettent de côté, les sanctions les excluent. Et comme il faut qu'ils vivent, eh bien, se donnera les moyens d'une nouvelle dynamique monétaire. Mais ça sera la continuité de ce qu'ils ont fait avec la CEDEAO. Ils n'ont pas voulu gérer le gourdin de la CEDEAO. Ils ne tireront pas non plus le gourdin du franc CFA. Eh bien, ils vont aller tout droit vers une nouvelle dynamique. Je ne connais pas les dessous, mais si on veut suivre la logique de ce qu'ils font, c'est la direction qu'ils vont prendre. à condition que les autres pays de la CEDEAO se lèvent pour dire ça suffit. Il faut qu'on prenne en compte le désir de ces trois pays-là et qu'on puisse mettre en place, on puisse respecter nos propres règles que nous avons mis en place qui ne concernent pas le gel des avoirs, qui ne concernent pas les blocages d'entrée et de sortie des produits de chaque territoire, etc. etc. Ce n'est pas prévu dans les sanctions au sein de la CEDEAO. Mais tout ce qui n'a pas été prévu est tout ce qui a été appliqué au Niger et au Mali. Et donc, dans ces conditions-là, la logique veut que demain, eh bien, ils aient leur propre monnaie s'il n'y a pas un rétro-pédalage de ceux qui veulent mettre en cage ces trois pays-là.
C'était le docteur Aouadon Mello, vice-président en charge des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS, ancien ministre ivoirien pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la visite d'une délégation des BRICS au Niger. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le report des élections présidentielles sénégalaises continue de faire réagir. Bola Tinubu, le président du Nigeria à la tête de la CEDEAO, s'est rendu à Dakar ce 12 février. Selon la presse nigériane, le chef d'État devrait discuter de la situation avec son homologue sénégalais et même insister auprès de Macky Sall pour qu'il respecte la constitution de son pays et évite de plonger le Sénégal dans une crise prolongée. Les manifestations contre le report de la présidentielle ont déjà fait 3 morts depuis vendredi. Pour rappel, les élections initialement prévues le 25 février prochain ont été reportées au 15 décembre 2024. La nouvelle est tombée à quelques heures du début de la campagne, alors que 20 candidats avaient été admis à participer par le Conseil constitutionnel. Des manifestations ont éclaté dans le pays et l'Internet mobile a été provisoirement suspendu. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté le report du scrutin au 15 décembre 2024, lors d'une séance marquée par une bagarre dans l'hémicycle et l'intervention de la gendarmerie. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, a analysé la situation en cours au Sénégal. Le président sénégalais a annoncé le report de la présidentielle, initialement prévu le 25 février. Comment voyez-vous les causes de ce report, premier de ce genre depuis plus de 60 ans ?
Effectivement, c'est tombé comme un cheveu dans la soupe. Cette décision du président Macky Sall, les techniciens de droit et de constitution, je pense déjà, ont donné beaucoup d'avis pour indiquer clairement que cette décision de Macky Sall était en violation des dispositions de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, alors quand on prend le 25 et que la note est tombée lundi ou mardi, je crois. Donc, il y a véritablement des questions à se poser. Pourquoi est-ce que le président Macky Sall prend une telle décision? Et quand on lit le communiqué qu'il a annoncé, c'est dire qu'il a pris la décision et maintenant il appelle la classe politique à adhérer à sa décision, puisque une telle décision ne pourra être prise par un seul bord politique. Le Sénégal étant un pays avec plusieurs partis politiques, donc il était de bon ton d'abord qu'il consulte effectivement l'ensemble de la classe politique avant de prendre cette décision, chose qui n'a pas été faite. C'est pourquoi on voit les populations qui sont très révoltées parce que les populations avaient gardé cet esprit de démocratie du Sénégal et en vantait effectivement le mérite de cette démocratie-là. Aujourd'hui, Macky Sall est dans une position où il veut remettre en cause tous les acquis démocratiques de ses prédécesseurs, mais aussi qui caractérise la vaillance du peuple sénégalais à se battre pour maintenir cette démocratie-là. Donc aujourd'hui, Macky Sall vient jeter son pied dans la fourmilière pour titiller le peuple sénégalais. Donc c'est tout à fait normal la réaction des populations qui ne comprend pas les bien fondés de cette décision parce que les raisons évoquées principalement pour ce report, c'est avoir une large concertation alors que préalablement, on a suivi depuis 2022, bien avant, les tentatives qui ont été orchestrées pour que Sonko Ousmane ne puisse pas se présenter à cette élection-là. Et fort heureusement, toutes les voies de recours ont été utilisées dans la légalité et dans le respect de la Constitution et dans le respect des droits du Sénégal. Et Sonko a pu réintégrer la liste pour être candidat à cette élection-là. Donc, Macky Sall, qui avait vainement engagé toutes les voies possibles à leur voix, son schéma s'effritait comme un château de cartes.
Des tensions ont eu lieu à Dakar après l'annonce du report. L'accès à l'Internet mobile a par ailleurs été coupé. Alors que le président sénégalais veut faire avancer le processus de réconciliation nationale, certains activistes appellent aux protestations dans tout le pays. Comment évaluez-vous les perspectives de règlement de cette situation ? Et y voyez-vous des risques d'aggravation de la crise ?
Je suis parfaitement d'accord avec le peuple sénégalais parce que ce peuple-là a droit de manifester, ce peuple-là a droit de réclamer sa démocratie, ce peuple-là a droit à tous les honneurs parce qu'on dit toujours que le pouvoir revient au peuple. Donc la colère exprimée par le peuple sénégalais est tout à fait normale et nous souhaitons davantage que elle s'affirme de plus en plus, quitte à ce que le président Macky Sall dépose sa démission et s'en aille tranquillement sans créer autre vive tension. Parce que l'issue de cette crise, il y a deux possibilités selon moi. La première possibilité étant que effectivement Macky Sall revienne sur sa position parce que on a constaté d'abord le vote au niveau de l'Assemblée qui n'est pas passé et qui a été forcé pour passer parce que on a compris qu'il y a des députés, ceux-là qui étaient contre ont été extirpés et c'est ceux-là qui étaient pour, qui sont restés pour acter la loi. Des informations qui nous reviennent également est que au niveau de la Cour constitutionnelle, alors les juges n'ont pas encore acté cette décision-là. Ce sont des choses que nous saluons très vivement et que ces institutions qui sont les garants de la souveraineté du peuple, les garants de la démocratie, puissent s'exercer en toute indépendance et en toute liberté pour sauver le pays. Donc, la première possibilité, c'est donc que ces institutions, ces personnalités et toutes les confessions et les communautés sénégalaises mettent la pression sur le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision afin que le processus se poursuive de façon normale. La deuxième possibilité est que cette décision de Macky Sall soit le prémisse d'une crise profonde et une crise profonde qui pourrait perdurer parce que après le 25, qu'est-ce qui va se passer si effectivement la résolution n'est pas prise? Est-ce que le président va descendre? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà toutes les inquiétudes, tous les questionnements que l'on peut se poser. Alors, cette situation augure véritablement une crise importante. Alors, si on regarde le contexte de l'Afrique de l'Ouest, le contexte de la CEDEAO actuellement. Alors, si le Sénégal se jette dans une crise profonde, vous voyez que ça va empirer la situation de l'Afrique de l'Ouest, ça va empirer la situation de la CEDEAO de façon générale. Alors, à qui profite cette décision? C'est la question légitime que nous, les panafricains, nous nous posons. Est-ce que Macky Sall a pris cette décision pour sa personne? Est-ce que cette décision a été prise à la faveur du peuple du Sénégal? Est-ce que cette décision a été prise pour faire plaisir à la CEDEAO et pour faire plaisir à la France? Visiblement, tout concorde à montrer que, effectivement, cette décision a été prise pour justement les intérêts de l'impérialisme et principalement de la France.
La réaction de la CEDEAO vis-à-vis de Dakar était assez modérée. L'organisation qui avait plutôt sévèrement sanctionné Bamako, Ouagadougou et Niamey n'a exprimé que son inquiétude par rapport à la situation au Sénégal, traitée par plusieurs candidats à la présidentielle comme non constitutionnelle. Trouvez-vous cette réaction proportionnelle ?
Alors, je disais que cette crise vient dans un contexte assez particulier qui est caractérisé par la sortie des trois pays, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, les pays de l'AES qui ont exprimé leur volonté de se soustraire de la CEDEAO. Et voilà dans la foulée que le président Macky Sall prend cette décision. Nous pensons qu'il y a une forte corrélation entre ces deux décisions assez importantes. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs nous disons que c'est dans l'intérêt de la France que le président Macky Sall a pris cette décision, dans le seul but de conduire le Sénégal dans une crise profonde. C'est pourquoi nous en appelons à toutes les intelligences sénégalaises, à la classe politique, aux leaders coutumiers et de tous bords, religieux et coutumiers de tous bords, d'avoir cette profonde réflexion dès l'entame du 25, de constater la vacance du pouvoir et de se dessaisir le président Macky Sall de toutes ses prérogatives et organiser très rapidement une situation de gestion de crise pour remettre le Sénégal sur le bon chemin, parce que la décision prise, les conséquences que nous ne connaissons pas d'abord, ni les motivations réelles, parce que les motivations fallacieuses avancées par le président Macky Sall ne sauraient véritablement jeter le pays dans cette crise-là. Et mieux encore, s'il s'efforce de trouver les arguments, de tripatouiller les institutions, de manipuler les institutions pour faire passer en force, visiblement, l'objectif premier n'est pas effectivement d'aller aux élections, mais de créer une crise profonde au Sénégal. Et c'est cette clairvoyance-là que nous en appelons à l'ensemble des dirigeants, des institutions, à l'ensemble des communautés, de tirer bonne leçon des situations de crise en l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où depuis l'éviction par les forces impérialistes du président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, nous voyons jusqu'à aujourd'hui la crise tendue qui n'est toujours pas désamorcée malgré le temps qui passe. Donc c'est le vœu que nous formulons à ce que le peuple sénégalais et l'ensemble des institutions aient cette lecture de clairvoyance là pour éviter une crise profonde qui va sortir de cette situation.
C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest pour Spoutnik Afrique. Il a analysé la situation en cours au Sénégal suite au report des élections présidentielles et évalué les perspectives de sa résolution. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont de nouveau réitéré leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Les trois pays fondateurs de l'AES avaient annoncé dans un communiqué conjoint fin janvier qu'ils quittaient l'organisation régionale avec effet immédiat. Un nouvel écueil pour la CEDEAO qui s'était réunie en urgence le 7 février dernier. Les événements en cours au Sénégal sont un énième caillou dans la chaussure de l'organisation qui n'avait pas besoin de cela. Pour ne rien arranger, à l'instar des événements survenus au Niger l'été dernier, elle n'a cette fois-ci pas condamné le report des élections présidentielles au Sénégal, ni mis en place la moindre sanction contre Dakar. Certes, il convient de noter que, comme indiqué précédemment, le président nigérian à la tête de la CEDEAO s'est rendu à Dakar ce 12 février et une délégation du Parlement de cette organisation est arrivée au Sénégal un jour plus tôt. Cependant, leurs efforts semblent devoir se résumer à ce que la CEDEAO a déjà déclaré dans son communiqué, inviter le Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Nome Grasse Esso, représentante du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, est revenue sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Selon la déclaration de votre parti, le retrait de la CEDEAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger était nettement prévisible. Pourquoi ? Et comment voyez-vous les causes de ce retrait ?
La CEDEAO s'est éloignée des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme. 2. La CEDEAO est sous influence étrangère, toute chose qui trahit ses principes fondateurs. 3. La CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. 4. La CEDEAO n'a pas apporté assistance dans le cadre de la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, la CEDEAO a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres tests. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des terroristes instrumentalisés et téléguidés. Voici les causes du retrait de l'AES de la CEDEAO. Voyons la cause du retrait de la Mauritanie en 2000 de la CEDEAO. La Mauritanie s'est retirée en 2000 de la CEDEAO parce que selon elle, elle se retire pour mieux se consacrer à l'alliance des pays du Maghreb. Donc pour moi, si la Mauritanie s'est retirée pour une telle cause, les causes que soumettent ici les pays de l'AES sont tellement importants que pour moi, les causes de leur retrait, ces causes-là sont légitimes et justifiées.
Un autre membre de la CEDEAO, le Sénégal, connaît une montée des tensions après l'annonce du report de la présidentielle. La situation dans ce pays pourrait-elle affecter la CEDEAO ?
Dans sa déclaration du 3 février 2024 concernant le Sénégal, la CEDEAO n'appelle pas au respect de la Constitution. Elle demande aux autorités d'accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour les élections. Le lendemain, l'Assemblée nationale est saisie, la gendarmerie intervient pour faire sortir les députés de l'opposition qui demandaient un débat parlementaire sur la question. La loi est malgré tout adoptée par les députés du parti au pouvoir présent. La CEDEAO fait une autre déclaration en prenant en compte la nouvelle date des élections. La CEDEAO sait très bien que le président Macky Sall n'a pas compétence à reporter les élections présidentielles. Seul le Conseil constitutionnel a cette compétence. La CEDEAO ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Autant de choses qui mettent sérieusement en mal le sérieux et la crédibilité de la CEDEAO.
Avant de sortir de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur intention d'aller vers l'intégration tous azimuts au sein de l'Alliance des États du Sahel. Comment voyez-vous l'avenir de l'AES et son poids dans la région ?
Nous savons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont trois grands pays qui comptent et qui sont importants en Afrique de l'Ouest, avec d'importantes ressources naturelles inexploitées, de vastes territoires et une population jeune, nombreuses, très courageuses et travailleuses. Je pense qu'au prix de sacrifice, ils pourront être fiers d'eux-mêmes.
En décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé que l'AES évoluerait vers une alliance économique. Alors que les pays de l'AES viennent de quitter la CEDEAO, comment voyez-vous la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe ?
Cela ne fait l'objet d'aucun doute que cette monnaie verra le jour. Ils en ont les moyens et les compétences. C'est une bonne chose et ça ne fera que renforcer les liens au sein de l'AES.
Alors que l'influence française continue de diminuer sur le continent, nous voyons des chefs d'État et des ministres africains se rendre en Russie. Quelles sont les raisons pour lesquelles beaucoup de pays africains, et notamment sahéliens, souhaitent développer des liens avec la Russie d'après vous ?
Tout d'abord parce que la Russie n'a jamais été un pays colonisateur de l'Afrique, que ce soit de façon directe ou indirecte. Les Africains voient la Russie comme un partenaire fiable et respectueux de leur souveraineté. L'exemple du Mali est très édifiant parce que pendant 10 ans, les Français sur le territoire étaient censés combattre les terroristes. Mais après 10 ans, aucun résultat. excédés, les Maliens demandent et obtiennent leur départ. La Russie vient en aide au Mali et en moins d'un an, le résultat est sous nos yeux, un résultat excellent. Donc c'est normal que les Africains se tournent vers la Russie.
C'était le docteur Nomgrace Esso, représentante du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour Spoutnik Afrique. Elle a commenté le récent retrait de la CEDEAO des pays de l'AES et évoqué les événements en cours au Sénégal. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.